C'est le parchat de Pinchas, le début, et exactement la, c'est la continuité de dernières choses qu'on avait vues la semaine dernière. Mais je voudrais commencer par quelque chose qui est un peu plus loin dans le texte. Après que Moshe Rabbeinu ait annoncé le partage des Rêtes Israël entre les tribus, etc. Donc vous prenez au chapitre 27, dans le psaume, c'est 942. Vatikravna Benot Slochod, Ben Khefer, Ben Gilad, Ben Menachi, Ben Machir, Ben Menashe, Ben Mishpichot Menashe, Ben Yosef, Vele Shemot Benotav, Machla, Noa, Chogla, Umilka, Vetirza. Donc, le texte dit, les filles de Slovkhod, et on dit qui était ce Slovkhod, il est Ben Khefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menashe, un descendant de Menashe, il est un, Menashe c'est un des deux fils de Yosef. Donc, on rapporte l'ascendance de ses fils, de ses filles, pardon, puisqu'on dit qu'elles sont les filles de ce Slovkhod, et on nous donne cinq générations de, donc elles ont cinq générations de Yichus, si on veut, d'ascendance, qui sont mentionnées. On donne leur nom, le nom de chacune des cinq filles. Et on nous dit, Vatamodna Lifne Moshe, elles se sont tenues devant Moshe. On avait dit au début, Vatikravna, elles se sont avancées, approchées. Elles se sont tenues devant Moshe, devant Elazar à Cohen, et devant les princes des différentes tribus. Et en fait, devant tout le monde, à la porte du Ohel Moed. Et elles ont dit la chose suivante. Avinu, notre père, met Bamidbar. Il est mort dans le désert, mais ulo haya betoch haeda anoadim al Hashem ba'adat Korach. Il ne faisait pas partie de ceux des fans de fan club de Korach. Il est mort pour sa propre faute. Slovkhod, on sait que il est allé couper du bois pendant Shabbat. Et il a été, Moshe Rabbeinu ne savait pas comment exactement on allait le sanctionner. Il a demandé à Hachem et il a été condamné à mort. Mais donc, il est en tout cas mort pour sa propre faute et il n'est pas dans un, il n'est pas mort avec un groupe de révoltés contre Moshe, etc. Uvanim lo ayulo. Et il n'avait pas de garçon, il n'avait pas de fils. Il avait cinq filles, c'est nous. Elles sont là. Et elles disent, Lamaï gara, shemavinu. Pourquoi est-ce que le nom de notre père serait moins bien traité, mitoch mishparto, à l'intérieur de sa famille, qui a une loben, parce qu'il n'a pas de fils. Sinon, là, nous, Achouza, donnez-nous à nous, ses filles, le terrain, betoch acheavinu, parmi les frères de notre père. Vayakrev Moshe et Mishpatan Lifne Hashem. Et Moshe a porté leur mishpat, le sujet de leur plainte, donc, devant Hachem. Donc, Moshe ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Comment on va faire? Est-ce que ce qu'elles disent, c'est qu'il y a un problème, il y a une injustice dans le partage des terres, donc dans le problème d'héritage, parce que notre père, il aurait dû avoir une part du territoire qui a été alloué dans la tribu de Menaché, etc. On devrait lui allouer une part et c'est nous qui allons recevoir en héritage cette part. Vayomer Hachem el Moshe les mots. Alors, Hachem parle à Moshe, donc il lui répond. Il répond à la question de Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Hachem dit, Ken benot slofrod dovrot. Elle parle juste, on va voir dans le détail, les filles de slofrod. Naton titen laem achuzat. Achuzat nachala betoch acheaviem. Tu leur donneras effectivement une part, la part de leur père, qui va être une part dans l'héritage qu'il aurait eu s'il avait vécu en même temps que ses frères. Ve'avarta et nachlat aviem laem. C'est une première chose, on va donner une part à leur père. Et ensuite, on va transférer cette part, on va la leur transférer à elles, donc héritage des filles. Héritage des filles quand il n'y a pas de garçon qui hérite. En gros, dans la législation, c'est comme ça, les filles, elles sont dotées, elles reçoivent une dot, et les garçons héritent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis évidemment, comme la plupart du temps, les filles se marient, donc elles vont bénéficier de l'héritage de leur mari. Velbene Israël, c'est d'abord des morts, et au Bnei Israël, tu vas leur parler, tu vas leur donner la loi, tu vas leur dire, Ish ki yamut. Quand un homme meurt, ven en lo, et il n'a pas de garçon comme héritier, donc, va avartem et nachalato le vito. Alors, vous ferez glisser l'héritage à sa fille. Et s'il n'a pas de fille, alors vous donnerez l'héritage à ses frères. Et s'il n'a pas de frère, alors vous donnerez l'héritage au frère de son père. Et s'il n'y a pas de frère au père, alors vous donnerez au plus proche, le Shéro Akarov, le proche de famille, Mimishparto, celui qui est le plus proche. Ve'yarash Ota, et il aura Ve'aita, Ivne Israël, le Kukat Mishpat, la chère Tzibar Shemet Moshe. Et donc, la question qu'elles avaient posée était une question personnelle. Cette question personnelle, elle a été résolue. Donc, ça, la question qu'elle avait posée, qui était une question personnelle, c'est devenu un modèle pour tout le monde. Donc elles ont, si vous voulez, elles ont eu accès ou elles ont fabriqué, grâce à elles, il y a une nouvelle paracha dans la Torah. Alors on va regarder un peu. Donc ce qui est remarquable, c'est le verbe là, Tikravna, Vatamodna. Il y a vraiment une initiative. Elles se sont approchées, elles se sont tenues. Vous imaginez la révolution que ça représente et le courage qu'il fallait pour aller se présenter devant tout le monde et réclamer devant tout le monde. Alors d'abord, ce qui est très important, c'est comme ici, on voit que on est remonté jusqu'à Yosef, tellement de générations. Où est-ce que c'était fondamental de nous dire de remonter jusque-là? Dans le Midrash Rabba, hein, on dit la chose suivante. Sur ce Gedoula lahen ugdoula lavienne. C'est-à-dire, c'est une grandeur d'elle et aussi une grandeur pour leur père. Gdoula le Machir, Gdoula le Yosef. Shekach yatsu mimenu nashim chachamot ve tzidkaniot. Donc, c'est une grandeur pour eux d'avoir dans leurs descendants des femmes aussi sage et aussi juste. Ma chokhmatan, où est-ce qu'on voit la chokhma, la sagesse? Parce que chez les filles, Sha'a d'Iberou, elles ont parlé au bon moment. On va revenir là-dessus. Sha'a Moshe Osek beparashat Nachalot, parce que Moshe était occupé justement à enseigner la paracha de l'héritage. Donc, au bon moment, elle vient, elle pose une question d'héritage. Puisque, où est-ce qu'on voit que c'était la nakhala? Parce que le texte, juste avant, il avait dit, la ele techalek haaretz, à cela, tu partageras la terre. C'est l'introduction de la paracha du partage de la terre d'Israël entre les différentes tribus et dans les différentes familles. Alors, voilà comment elles ont argumenté. Im keven, si nous sommes considérés comme des fils, on ne fait pas de différence entre les fils et les filles, à nous nirash keven. Alors, nous devons hériter comme des fils. Alors, jusque-là, ça va. C'est encore. Mais qu'est-ce qu'elles ont sorti comme argument? Dans l'autre côté, elles ont dit, Vimlav, et Tiabemimenu. Et sinon, alors notre mère, elle devrait pouvoir faire Yiboum. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez la paracha de Yiboum? La paracha de Yiboum, c'est, en français, ça se dit avec du joli mot, Levira. Bon, c'est la chose suivante. Si un homme meurt, sans enfant, et ici elles disent, s'il meurt sans héritier, si on ne considère pas comme les enfants, comme dans le texte de Yiboum, c'est marqué sans ben, ou ben en lo, il meurt et il n'a pas d'enfant, alors il y a une mitzvah, la mitzvah de Yiboum est une mitzvah qui incombe au frère du décédé, frère du défunt, d'épouser la veuve pour, en principe, quelque chose pour assurer une descendance au frère qui est décédé sans descendance. A priori, ils ont une mitzvah d'épouser. Un des frères, s'il y en a plusieurs, devrait épouser. S'ils ne veulent pas épouser la femme, la veuve, alors, ils doivent faire ce qu'on appelle une khalitsa, c'est-à-dire il y a une cérémonie par laquelle la femme est libérée de tout lien avec cette famille et elle peut maintenant aller épouser qui elle veut puisqu'elle est veuve. Donc, ou bien la mitzvah c'est Yiboum, et si on ne fait pas de Yiboum, alors il y a une option qui s'appelle khalitsa. Alors, elles disent de deux choses l'une. On nous considère comme des fils, auquel cas on doit hériter. Et si on n'est pas considéré comme des fils, alors on compte pour beurre, la descendance de notre père, alors notre mère est une veuve sans enfant, et un des frères doit faire yiboum avec notre mère. Bon, c'est une argumentation assez sophistiquée. Alors, immédiatement, miyat, immédiatement, Mishpatan. Ensuite, on nous dit, donc Moshe a posé le problème à Hachem. A aussi dit qu'elles étaient tzidkaniot, ayou. Elles étaient justes. Shelo nasu ela le'agun la'el. Juste, ça veut dire, elle ne voulait pas épouser que, elle ne voulait épouser que des gens qui étaient à la hauteur d'elle. Elle ne voulait pas épouser n'importe qui. Vilama, Zimna, Nakados, Baoukou, le Moshe, Baharona. Et pourquoi est-ce que, Hachem a fait en sorte qu'elles arrivent là, sur Moshe Rabbeinu après qu'il ait enseigné? Shelo ire Moshe Atzmo, chez Perash Minaïcha, 40 Shana. Donc, pourquoi ils viennent maintenant? Parce qu'on ne voulait pas que Moshe Rabbeinu soit en quelque sorte en face de ces jeunes femmes, lui qui s'était séparé pendant 40 ans de son épouse, puisqu'il avait reçu l'ordre d'Hachem de rester avec lui et de ne pas retourner vers Tzipora, tout de suite après Aseret Hadibrot. Zodio Akadosh Baruch Hu ve'elu lomar arei anashim shelo nitztavu ve'lo nisu ela le'agun la'em. Donc Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, ces femmes-là, qui n'ont pas reçu de mitzvah, qui sont pas mariés, ne sont mariés que à des gens qui étaient à la hauteur, elles méritent bien qu'on, c'est des femmes très importantes. Alors, il y en a qui expliquent qu'elles étaient aussi darshanot, ça veut dire elles ont fait une dracha. La dracha qu'elles ont faite, si c'est comme ça ou comme ça, c'est une dracha. Et c'est vu comme un compliment. Et ce compliment, il n'est pas tellement fréquent pour les femmes, puisque, a priori, les femmes n'étant pas astreintes à l'étude de la Torah, alors on ne valorise pas cette chose-là. Mais ici, on voit très bien que, dans la mesure où elles le font, c'est valorisé. Elles ne sont pas obligées de se lancer là-dedans, mais du coup, c'est valorisé. Alors, il y a beaucoup de midrashim là-dessus, mais il y a encore une partie du Midrash que je voulais lire avec vous encore. Cette fois-ci, sur la deuxième partie, qui dit que Moshe a posé le problème à Hachem. Yesh omrim, she'ifli min Moshe. Certains disent que la question était, Moshe Rabbeinu ne savait pas répondre. Bon, elles ont posé une question et Moshe Rabbeinu ne savait pas répondre. Il ne sait pas comment répondre. Sheyesh tzadikim, shenitgaou idvar mitzvah, ve'itish HaKadosh Baruch Hu et kohan. Il y a des gens, des tzadikim par ailleurs, mais qui se sont un peu enorgueillis dans l'accomplissement d'une mitzvah, et du coup, Akadosh Baruch Hu les a affaiblis. Hachem, il n'aime pas du tout l'orgueil, et donc si quelqu'un essaye de s'enorgueillir, en général, Hachem le remet à sa place. Alors, on demande, on apporte le Midrash en question, il dit, Ata motzeh, chez Amar David Amelech a demandé à Hachem, il lui a dit, ou il a dit, Zmirot ayuli chukecha. Il a dit, Techukim, il a dit à Hachem, Techukim sont pour moi comme des champs. Dit de David Ameller qu'il était l'auteur, donc on l'appelle celui, l'auteur des Zmirot, justement. Et il voulait dire par là que les lois d'Hachem lui sont aussi chères que les Zmirot, ce qui est sa spécialité. Mais Hachem n'a pas du tout apprécié, parce que lui, il a entendu l'Omar, Shekalot, Urgilot, Kizmirot. C'est-à-dire que c'est aussi léger, aussi courant, en fait, que des chants. Par ta vie, c'est un serment que j'aime faire. Je sauverai les hôtes de Navarre, c'est un philopote, Corinne. J'aime assurer que parce que tu as, d'une certaine manière, méprisé mes choukim, mes lois, en les traitant de smirot, tu vas te tromper sur une question que même les tilokot, c'est-à-dire les petits-enfants du Cheder, apprennent et ils savent. C'est le problème de Bathsheba. Je vais regarder avec Bathsheba. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé avec Bathsheba et David, c'est une sanction parce que David il a parlé très légèrement des Foukim, il s'est mis un peu au-dessus de. C'est les Zmirot. Pour moi, c'est aussi bien que les Zmirot. Les Zmirot, c'est lui. Donc, c'est Choukecha et Zmirotai. Il y a un Midrash qui dit presque la même chose. Il met aussi toute cette histoire avec Bathsheba sur le compte aussi un peu d'orgueil de la part de David. Juste pour mémoire, David HaMelech avait demandé que dans la Amida, comme on dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, il a demandé qu'on dise aussi Eloke David. En pensant, voilà, eux c'est les Avot, et moi je suis le Mashiach, en quelque sorte. David c'est le Mashiach, c'est le premier oint, et le Mashiach ce sera son descendant. Donc il voulait qu'on dise aussi Eloke, on s'adresse à Hachem aussi en étant, en l'appelant le Dieu de David. Et Hachem lui a répondu non. On lui a demandé, mais pourquoi? Hachem lui a dit, eux, je les ai éprouvés, toi, je ne t'ai pas éprouvé. Alors David a dit, ben, éprouve-moi, Hachem. Hachem lui a dit, attends, je vais t'éprouver avec un truc. C'est les petits-enfants du Cheder de Belleville, tout le monde sait, et tu vas te casser la figure. C'est-à-dire, ici, mais qu'est-ce que ça fait ici dans notre affaire? Alors, en réalité, ce que ça fait, ici, pourquoi c'est marqué ici, parce qu'il y a toute une liste de gens qui ont touché à cette affaire-là, c'est-à-dire que, qui ont un peu critiquable. Le mot Vatikravna, elles se sont approchées, ce mot-là, il fait référence à ce que Moshe Rabbeinu a dit quand Yitro a proposé de réorganiser le système juridique tout était sur le dos de Moshe. Alors Moshe, il a dit que voilà, ben, les différents tribunaux vont s'occuper de différents problèmes et les questions difficiles, Vatikrevun, est là. Les questions difficiles, vous me les approcherez à moi. Et ça, c'est mal pris. Il aurait dû dire, les questions difficiles, je les poserai à Hachem. Il dit, vous me les approcherez à moi. Et donc, c'est le même mot, akrava, c'est le même mot, se rapprocher, vous rapprocherez les questions difficiles à moi, alors les filles de Sophron, elles se rapprochent, elles s'approchent de Moshe, C'est une façon de, évidemment, c'est subtil, quoi. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Et les Chazal vont dire que, en fait, c'est un privilège d'être celui par lequel la Torah est donnée. Et lui, mon cher Rabbeinu, ici, il perd un privilège, puisque cette paracha-là de l'héritage des femmes est donnée grâce aux filles de Sophron. Et donc, lui, il perd un privilège et elle gagne ce privilège. Une espèce de jeu à somme nulle, quoi. Et Chazal disent, elle voit ce que Moshe ne voit pas. Donc, elles ont compris qu'il y avait un problème et Moshe, il aurait dû soulever le problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fils. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tout de suite remonter au frère du père, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec les filles? Et lui, il a pris, il s'est pas vraiment mis au service de la halakha en question.
C'est en ça que Moshe Rabbeinu il est comparable à David Ameller.
Hein?
À David Ameller. C'est en ça que Moshe Rabbeinu il est comparable. D'une certaine manière, il est affaibli.
Oui, il est affaibli parce que il a affaibli parce que justement il a parlé par rapport à la halakha, il s'est mis un peu trop en avant. Il s'est enorgueilli par rapport à la halakha, comme David s'est enorgueilli par rapport au Chukim d'Hachem en disant que bon, pour moi c'est la même chose que les Zmirot. Alors c'est intéressant parce que bon, lui, c'est une demande. Ici dans le Midrash, c'est dit que c'est présenté comme il en parle de cette manière-là. Dans le Midrash que je vous ai rapporté, il demande quelque chose. Mais de toute manière, c'est un peu la même chose. Il y a toute une liste dans le Midrash, c'est un peu trop long pour voir tout ça. Mais voilà, donc ces filles de Sophron, elles sont assez extraordinaires. D'abord, quand elles parlent, elles mettent toujours leur père en avant. Livre trois fois notre père, etc. Et puis elles disent, donne-nous, si déjà, donne-nous, elles demandent. Cette demande, donne-nous, elle a été adressée par les Bnei Israël, ils ont demandé de l'eau, donne-nous de l'eau, donne-nous de la viande, donne-nous du grain pour survivre. Ça, c'est ceux qui ont demandé à Yosef, donne-nous du grain, donne Léa qui a dit à, non, Rachel qui a dit à Léa, donne-moi tes mandragores, Abraham qui dit, donnez-moi un caveau, etc. Et toute une suite de. Et là aussi, donne, ça veut dire. Elle demande, elle dit à Moshe, donne-nous. Alors, qui est très intéressant ici, c'est la façon dont Hachem rapporte à Moshe, dit à Moshe comment est le la, la, la. Et ça commence par Ken benot Slofrod dovrot. Ce mot Ken là, qu'elles disent. Alors le mot Ken ici, dans le Targum onkelos, il a traduit par Yaout. Yaout, ça veut dire en fait, c'est bien, c'est correct, c'est très correct, c'est très propre. Et on voit que Moshe ne lui répond pas, il ne répond pas comme on veut, il ramène la question chez Hachem. Alors on a dit, certains disent que c'est simplement que lui ne sait pas. Et pourquoi il ne sait pas? Peut-être comme sanction de ce de cet orgueil qu'il avait quand il a dit, m'a porté à moi les questions difficiles. On lui, Hachem, il ne pardonne pas ce genre de choses. Ou alors, il répond pas parce que c'était, il y a le problème du mérite des filles de Sophron. Et donc, quelque part, cette partie de la Torah, elle était réservée à elle pour que ce soit par elle qu'elle soit donnée. Et pas par Moshe, du coup. Donc, c'est-à-dire, il faut trouver une faiblesse chez Moshe une bonne raison pour que ça passe par les filles de Sophron. Avec ce qu'on a dit, ça suffit. Alors, le Rashi, il dit, excusez, Ken Benot Slofrot sur le Passouk Zain, vous avez Rashi, et Targumo, Yaout. Rashi dit, il faut l'entendre comme le Targum, je vous ai dit, le Targum, il dit Yaout, ça veut dire correctement. Donc, elles ont parlé correctement, elles ont parlé de façon très proprement, elles ont très très bien parlé. Kach ktuva parshazu lefanai bamarom. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont parlé proprement, correctement? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, cette paracha de l'héritage des femmes, elle est écrite dans la Torah déjà. Je t'ai pas donné à toi, mais dans la Torah que j'ai devant moi, qui est le plan du monde, elle est écrite. Or, il se trouve que ces femmes, elles disent exactement les choses comme elles sont écrites dans la Torah devant moi. Magid, Sheraata, Enan, Mashelo, Raata, Eno. Ça vient dire, c'est ça cette idée, qu'elles ont vu ce que lui n'a pas vu, que Moshe n'a pas vu. Ken blot, et alors, il donne un deuxième pshat, Rashi. Ken benot shlofrot dovrot. Yafé, t'avoue. C'est beau ce qu'elle demande. Yafé, c'est beau, la beauté. Donc, on a deux pshatim. Un pshat yaout et un pshat yafé. C'est beau. Si vous voulez, on pourrait dire c'est à la fois éthique et esthétique. Lorsqu'elles disent, il y a à la fois de l'esthétique et aussi de l'éthique. Et là, tout à coup, Rashi, il prend position là. Regardez le texte. Ashrei Adam chez Akadosh Baruch Hu modèle Yitvarav. Heureux l'homme auquel Akadosh Baruch Hu reconnaît que ses paroles sont exactement ce qu'il fallait. C'est Rachid qui. C'est comme si Rachid, il nous disait quelque chose, là. Il dit quelque chose qui n'est pas le commentaire. C'est extraordinaire. On trouve ça nulle part, en fait. Bon, a priori, je ne vois pas d'endroit où Hachem dise que vous dites, c'est exactement ce qu'il y a devant moi dans la Torah. Ça n'est dit que pour les filles de Sophron. Alors, cette idée d'être heureux, en quelque sorte, sur ce qu'est-là, le Malbim, dans son commentaire, il dit, tout dans leur conduite est exactement conforme à ce qui est écrit devant moi, dit Hachem. Et on a vu dans le Midrash qu'elles ont parlé d'abord au bon moment, et elles ont dit, donc si nous sommes filles, fils, alors on doit avoir un héritage, et sinon que notre mère va si boum. C'est-à-dire, donc, elles ont fait une vraie drasha, et quelque part, elles produisent vraiment de la Torah, quoi. Non seulement elles produisent le texte de la Torah, mais elles produisent la drasha sur ce texte de la Torah. Alors, il existe une autre lecture, un autre midrash, et un Yalkut Shimoni, sur ce fameux bon moment. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont parlé au bon moment? Alors, le Yalkut, il est très étrange, parce qu'il dit, le bon moment, c'est quoi? Et alors, le Yalkut, pour répondre, enfin, il fait un dialogue entre Moshe et les filles de Sophronie. Alors, quand elles parlent, elles disent, voilà, ce qu'on a lu ensemble. Alors, Moshe leur dit, mais c'est très, très surprenant. Les Bnei Israël, ils réclament de retourner en Égypte, et vous, vous réclamez une part dans le pays d'Israël. Alors elles ont répondu, aussi avec énormément de chokhma, elles répondent, nous savons que finalement, tout Israël demandera sa part en Eretz Israël, quoi qu'ils en disent. Et on applique ici un principe qui s'appelle Et la sot l'Hachem, et faire Torah. C'est-à-dire, c'est un moment pour faire pour Hachem, et il y a des situations où il faut faire les choses pour Hachem, même si ça revient à transgresser la Torah. Alors, bien sûr, n'importe qui ne peut pas décider que c'est le bon moment pour faire ça, mais ce principe, il existe. Alors, le Midrash dit, il faut pas le lire comme ça, qui est la façon standard de lire, mais il faut lire. D'accord? Ils ont transgressé ta Torah en agissant pour Hachem. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'homme, eh ben, il faut être un homme, quoi. Il n'y a pas d'homme, ben, alors soyez les hommes, quoi. Alors, en plus de tout, elles ont exprimé leur amour pour Eretz Israël. Ce qui était donc, d'après ce midrash, pas du tout à la mode à ce moment-là, puisque les gens voulaient retourner en Égypte. Mais le midrash dit, c'est encore plus fort, c'est être la tzot l'Hashem, ça veut dire vraiment il faut faire, y compris en transgressant éventuellement la Torah. En fait, il y a un énorme problème avec ce midrash. Parce que c'est quoi la référence? La référence, c'est les Bnei Israël veulent retourner en Égypte, mais de qui parle-t-on? Qui est-ce qui veut retourner en Égypte? C'est les Juifs au moment des explorateurs. Les explorateurs, c'est plus 2 ans. Les filles de Sophronie, elles sont à plus 40 ans. C'est pas du tout de parler du bon moment alors que on parle de deux situations qui ont 38 ans d'écart. C'est un peu compliqué. Mais ça veut dire qu'en réalité, cette idée de on veut retourner en Égypte, c'est quelque chose qui est toujours là. Même à plus 40 ans, il y a toujours derrière leur tête retourner en Égypte, parce que retourner en Égypte, ça veut dire être libéré des mitzvot, ne pas avoir à faire les mitzvot. On va retourner en Égypte, on sera esclave éventuellement, ou un peu esclave, ou citoyen de seconde zone là-bas. Mais au moins, on n'aura pas besoin de faire les mitzvot. Et c'est ça que le Midrash veut dire, en mettant côte à côte des événements qui sont à 48 ans de distance, on ne peut pas dire que c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que c'est toujours comme ça. On n'en a jamais fini avec ça.
On suppose que les filles de Tselofrad, elles étudiaient la Torah à un niveau suffisamment élevé pour avoir des intuitions comme ça.
Oui, ça, probablement, c'est ce qu'on veut dire. Elles ont entendu la Torah que Moshe Rabbeinu avait enseigné en permanence. Et elles ont compris, et puis ensuite elles avaient un esprit, une recherche de justice. Elles trouvent que c'est injuste. Elles ont argumenté avec tout ce qu'elles savaient. Vous avez entendu. Elles ont compris que, d'une certaine manière, elles ont. Si on veut discuter, il faut discuter dans le cadre de la Torah, quoi. Les arguments, c'est pas simplement c'est injuste, c'est non. D'accord, c'est pas juste, mais comment il faut rentrer dans le système de la Torah. Entrer dans le système de la Torah, c'est ou bien il y a que c'est cette logique-là, il y a deux choses une, ou on est les fils, ou on n'en est pas. Et donc, ou on est les fils, héritage, ou on n'en est pas, alors notre mère doit faire Yiboum.
Et quand Yitro, il propose
Cette paracha, elle commence par la suite du problème de Pinchas, etc. Et on va revenir un petit peu, je vais revenir un peu sur la paracha de Foukat de la semaine dernière. Comme il y en avait deux. Cette histoire, dans cette paracha de Foukat, la paracha de Foukat, elle commençait, vous vous souvenez, par la halakha de la para aduma, c'est-à-dire la procédure par laquelle on se purifie du contact avec la mort, disons. Et cette paracha, elle était un peu étrange parce que par la suite, dans cette paracha, il y avait successivement la mort de Myriam, la mort d'Aaron et la condamnation à mort de Moshe Rabbeinu qui mourra qu'à la fin de Dvarim, mais ou à la fin du livre, ici, mais il est condamné à mort ici. Et donc le grand problème, évidemment, c'était cette condamnation de Moshe et d'Aaron. Vous vous souvenez ce qui s'était passé? Myriam meurt, il n'y a plus d'eau, et les Bnei Israël le protestent, etc., ils se révoltent. Et finalement, Hachem dit à Moshe, prends le bâton, il va parler au rocher, Moshe va, et il frappe le rocher, il donne de l'eau, il y a de l'eau en abondance, on abreuve les gens et les troupeaux. Et tout va bien, tout parfait. Et brusquement, le paragraphe suivant, il dit, Yann l'aurait parce que vous ne m'avez pas fait confiance, vous n'avez pas parlé au rocher, vous avez donc frappé le rocher devant les Israël. Vous m'avez pas fait confiance, alors c'est pas vous qui allez mener les Bnei Israël en Eretz Israël. Comprends rien, je veux dire. Tout s'est bien passé. Tout le monde est content, tout le monde, il y a eu de l'eau pour tout le monde et bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire et puis c'est sans commune mesure. Quand même à supposer que il faille s'arrêter sur le problème de pourquoi est-ce que Moshe a frappé le rocher au lieu de lui parler. Okay, alors, il a fait une faute, mais est-ce que cette faute, elle est tellement importante que ça implique la mort de Moshe et d'Aaron, enfin disons la mort, ils vont pas entrer en Eretz Israël. Alors, il faut essayer d'expliquer ce qui se passe et je vais seulement me concentrer sur le sujet d'abord de savoir quelle est la différence finalement entre parler au rocher ou frapper le rocher. D'après le conseil, le résultat aurait été le même. Il avait parlé au rocher, le rocher a donné l'eau. Et là, il a frappé le rocher a donné l'eau. Le résultat est le même. Mais on peut lire qu'il ne s'agit pas, quand Hachem dit à Moshe qu'il ne mènera pas les béné Israël en Eretz Israël, c'est pas une sanction. Il faut presque dire, c'est une conséquence, c'est un choix. Toi, tu as fait un choix. Moi, je t'avais dit de parler, toi, tu as décidé de frapper. Eh bien, si tu frappes, alors tu peux pas amener les béné Israël en Eretz Israël. Si c'est pas Moshe qui amène les béné Israël, alors on sait qui l'a amené, c'est Yoshua. Yoshua, c'est le grand élève de Moshe. Mais c'est pas Moshe. Chazal disent que on compare Moshe, si on peut, au soleil et Yoshua à la lune. Alors bien sûr, le soleil, il lutte contre, il efface complètement l'obscurité, alors que la lune, elle luit dans l'obscurité, mais n'efface pas l'obscurité. Il y a une petite histoire qu'on raconte sur les gens de Chelem. Chelem, c'est une ville d'imbécile, quoi, etc. Alors, à Rennes, on s'est posé la question de savoir qui était plus grand, le soleil ou la lune, le plus important. Et ils ont réfléchi pendant 7 jours et ils sont arrivés à la conclusion que la lune est plus importante. Parce que le soleil, il éclaire en plein jour, mais on n'a pas besoin du soleil, il fait plein jour. Et alors que la lune, elle nous aide parce qu'elle fait un peu de lumière durant la nuit. Donc c'est juste pour savoir exactement où on en est. C'est pas un midrash, hein, c'est une histoire. Alors, si Moshe était entré en Eretz Israël, alors, si vous voulez, c'est le soleil qui est entré, et avec Yoshua, ça n'a été que la lune. Alors, la grande différence, c'est, au moment qu'on en a déjà parlé ici, si Moshe Rabbeinu était entré en Eretz Israël, alors les choses auraient été absolument claires. Si c'est absolument clair, alors on sait exactement où il faut aller, on sait quels sont les obstacles, etc. On sait tout ça. C'est-à-dire la synthèse, la synergie en fait entre Eretz Israël et Moshe Rabbeinu, ça donne cette fameuse situation messianique, quoi, si vous voulez, la vraie situation messianique, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe, il s'est passé parce que c'est Yoshua qui a fait entrer les béné Israël, et par conséquent, il n'y avait pas cette clarté qu'il y aurait eu avec Moshe. Il est très grand, Yoshua, etc., mais il n'y a pas cette absolue clarté, c'est-à-dire que, par exemple, on a construit un Beth Amikdash, mais il a été détruit. On a reconstruit un deuxième, mais il a été détruit. Si on avait construit un Beth Amikdash sur le temps de Moshe Rabbeinu, on dit d'ailleurs la même chose sur David, aussi là, la raison pour laquelle David n'a pas construit lui-même le Beth Amikdash, il aurait été indestructible. Alors, pour David, il y a d'autres raisons, effectivement, pourquoi il fallait pas que ce soit indestructible. Mais en tout cas, chez Moshe Rabbeinu, tout aurait été absolument parfait. Ce qui n'a pas été le cas, évidemment, avec Yoshua. Mais qu'est-ce que Moshe voulait? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de frapper le rocher plutôt que de lui parler? S'il avait parlé, alors, il y aurait, enfin, c'est, les Midrashim, les Zohar, etc., expliquent que le fait de frapper le rocher, ça veut dire que pour produire l'eau, et l'eau, évidemment, c'est la Torah, bien sûr. Pour produire la Torah, il faut de la violence. Ou en tout cas, il faut creuser. va falloir faire violence au rocher, disons. Donc il faudra creuser et creuser et creuser, et c'est jamais fini. Mais l'eau à laquelle on accède, quand on creuse de cette manière-là, c'est l'eau de source. C'est une eau qui est beaucoup plus pure, beaucoup plus rafraîchissante, elle est vraiment vivante. Dans la Torah, ça s'appelle Maïm Chaïm, de l'eau vive, en fait, l'eau vivante. Elle est chargée de toutes sortes de richesses, minéraux, etc. Et elle est fraîche parce qu'elle a dû cette eau elle-même, elle a dû travailler, c'est-à-dire elle a dû se faufiler, circuler sous terre. En opposition à l'eau des fleuves, l'eau des lacs, l'eau, même la pluie. La pluie, elle vient pourtant du ciel, mais elle n'a jamais la fraîcheur d'une source. Bon, c'est pas rafraîchissant, l'eau de pluie. C'est donc deux sortes d'eau différentes. Et mon cher Abbé voulait, il veut donner au Bnei Israël la meilleure eau, l'eau de source en vérité. Et c'est pour ça qu'il a frappé le rocher. Il ne voulait pas parler au rocher. Il aurait donné une eau sans problème. Il aurait tout de suite laissé couler l'eau. Bon, mais ça aurait été de l'eau comme la pluie, comme l'eau des fleuves, comme l'eau des lacs, etc. Mon cher Abbé nous voulait cette qualité extraordinaire de l'eau de source. Ça veut dire, en vérité, pour la Torah, il voulait une Torah beaucoup plus profonde que la Torah un peu superficielle correspondrait au rocher qui donne volontairement, volontiers, son eau, cette Torah-là. Torah-là, superficielle, elle n'a rien à voir, elle n'a pas du tout les qualités d'une Torah qui est obtenue par un travail. Qui est obtenu en creusant et en creusant et dans un processus qui finit jamais. Parce que s'il faut creuser, bon, plus on creuse, plus on aura de l'eau plus fraîche, en quelque sorte.
Mais Rav, pourquoi c'est pas ce qu'Hachem a demandé?
Pardon?
Pourquoi Hachem n'a pas demandé ça?
Non, il n'a pas demandé, mais Moshe voulait ça. Moshe voulait donner au Bnei Israël une eau plus difficile à obtenir, qui demandait beaucoup de travail, mais une eau plus fraîche, une eau de meilleure qualité.
Mais est-ce que c'est la
Alors
première
Hachem
fois?
lui a dit, ah, si c'est comme ça, alors toi tu peux, c'est pas toi qui peux entrer les Bnei Israël. Parce que cette qualité d'eau, en quelque sorte, avec toi, c'est si on veut, c'est pas mon plan, en quelque sorte, a dit Hachem. Et cette synthèse, là, cette synergie-là, Hachem ne. Le problème, c'est Hachem, il a l'air de pas vouloir. Est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mon cher Rabbeinu, quand il entend qu'Hachem lui dit, c'est pas toi qui vas me faire, Moshe Rabbeinu, il n'arrête pas de prier. Dans Vaetranan, la gématria de Vaetranan, c'est 515. On dit que Moshe Rabbeinu, il a inventé 515 filotes pour entrer en Eretz Israël. Et Hachem lui a dit, au bout d'un moment, il a dit, arrête. Arrête. Il lui a demandé d'arrêter. Il lui a dit, si tu continues, tu vas obtenir, mais c'est pas bon. Le problème, c'est, Moshe Rabbeinu veut absolument que les Bnei Israël bénéficient à la fois de la meilleure eau et de la grande lumière et du soleil, si vous voulez. Et c'est pas, et Hachem dit non.
Et pourtant,
Un instant. entendu que il y avait un rave aux États-Unis qui s'était demandé, on l'avait invité à aller donner des cours dans un milieu complètement réformé, et il disait que par ce biais des cours qu'il allait donner, il allait pouvoir ramener des gens. Moi, il s'est dit, c'est sûr que s'il va donner des cours comme ça, il va y avoir levé le bouclier, etc., du côté de du côté orthodoxe, auquel il appartient, lui aussi. Alors, il est allé demander conseil à Moshe Shirav, qui était le grand patron de l'Agouda américaine, et qui lui a répondu, ah, c'est formidable, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc, voilà, il a commencé à le faire. Et puis, il s'est aperçu que dans la livraison prochaine du journal de l'Agouda, qui était le Jewish Observer, il y avait des lettres de lecteurs ou les réponses de l'éditeur. Et derrière les lettres, on sait très bien que c'est ce même Moshe qui était là, et qui, etc. Lettre dans laquelle on disait, il y a des rabbins qui s'imaginent que il faut qu'ils aillent porter la bonne parole, etc., mais c'est pas du tout ce qu'on veut, etc. Alors, il a pris son téléphone, il a téléphoné à Moshe Sherrard, il a dit, je comprends pas. Il y a 2 semaines, je suis venu parler avec toi pour te demander ce que tu en penses. Il m'a dit que c'est super, etc. Et maintenant, je vois dans ton journal que... Alors, il lui a dit, j'ai cher, mon travail, c'est d'enseigner. Notre travail à nous, c'est de critiquer. Chacun fait son job. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles certaines choses doivent être faites ou dites. Et puis, il y a quand même un certain risque que les gens aillent trop loin dans cette direction, donc il faut qu'il y ait un contre-pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui disent le contraire. Et donc c'est un jeu qui se joue à deux, si on est d'accord. C'est un peu comme des parents, d'accord? Où on dit small, entre dans l'éducation des enfants, on dit que ça doit être small dopa. Tu veux peut-être sortir pendant 5 minutes? On dit small dopa. Non, non, c'est bon. Il faut le dire. Smoldocha, ça veut dire, si la main gauche repousse, il faut que la main droite approche. Là, il faut pas mettre un enfant dans une situation où tous les deux disent un non absolu. L'enfant, il est devant un mur et ça peut avoir des conséquences désastreuses. Donc, il faut pas contredire directement, mais il faut, on sait très bien, ça se joue à deux. Alors, on sait, j'interdis, mais je sais très bien que toi, tu vas trouver la porte pour que l'enfant, il arrive à se trouver une solution. Et dans le monde, c'est souvent comme ça. Il y a des choses qui doivent être faites, mais elles sont risquées. Et donc, il faut s'assurer qu'il y a un contre-pouvoir. C'est une des... C'est des choses. Il y a un commentaire de cette histoire de Moshe Rabbeinu, du Ktav Sofer. Ktav Sofer, c'était un grand décisionnaire hongrois. Son père était encore plus grand que lui. Son père, c'est le fameux Ktav Sofer. Et le Ktav Sofer, il avait une réputation, c'était à l'époque où commençait la réforme, il était totalement intransigeant par rapport à la réforme, très 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 dur. Donc bon, tout le monde pensait que c'est quelqu'un qui était dur, alors qu'en vérité il ne l'était pas du tout, mais sur ce domaine-là, ça touchait à l'intégrité de la Torah, en quelque sorte, donc là-dessus il était sans compromis. Et le Ktav Sofer, il a expliqué l'histoire de Moshe Rabbeinu, ici avec Hachem, un peu dans le sens qu'on peut prendre comme une espèce de biographie de son père. Pour dire justement, c'est quelque chose qui se joue à deux, mais des fois il joue tout seul parce qu'il est obligé de faire les deux choses à la fois. C'est-à-dire, il pense que il y a une façade absolument rigide qu'il faut montrer, mais il faut peut-être avoir les élèves ou avoir des gens qui vont faire des choses et alors il faut qu'ils comprennent qu'ils vont être critiqués, mais ça ne veut pas dire du tout que le maître qui les critique pense qu'effectivement ils doivent se critiquer. C'est que pour éviter que d'autres gens fassent la même chose et ne le fassent pas avec à l'ampleur voulue, alors il faut critiquer. Et donc lui, son pshat dans Rashi, ça ressemble un peu, et certains, à une façon d'expliquer un peu la position de son père. En tout cas, ce qui se passe entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, c'est ça, que toute sa vie, jusqu'à la fin, Moshe Rabbeinu va discuter, il va demander, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi on peut pas avoir à la fois les deux, la meilleure eau et le soleil, et la clarté absolue, etc. Et Hachem dit non, 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 et il n'y a pas de réponse. Hachem ne lui répond pas, c'est-à-dire, il n'argumente pas, il lui dit non, c'est tout. Mais en fait, c'est quelque chose que il faut comprendre de la manière suivante. Si Hachem avait dit à Moshe de frapper le rocher parce que c'est comme ça qu'on a la meilleure eau, alors ça n'aurait pas été Moshe qui l'a fait. Hachem voulait que ce soit Moshe, c'est-à-dire le clan d'Israël, c'est-à-dire l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit l'associé d'Akadosh Baruch Hu qui recherche la meilleure eau. Et donc, il pensait qu'il faut effectivement frapper, mais il a dit, tu parles. Après, il lui a dit, non, maintenant que tu as frappé, alors on est obligé je peux pas, c'est ce que je voulais, je veux que les Bnei Israël travaille la Torah, c'était ou Amelim Batorah, etc., et qu'ils arrivent à fabriquer la Torah au plus profond. C'est pour ça que, par exemple, quand les Bnot Sofrot viennent demander quelque chose, c'est reçu de façon très enthousiaste de la part d'Hachem. Le fameux Ken, Bnot Sofrot de Brot, c'est-à-dire, comme Rashi dit, c'est à la fois esthétique et éthique, on peut pas faire beaucoup mieux. Donc, on peut se demander, mais pourquoi Hachem n'a pas dit à Moshe de dire tout de suite là à la fin? Pourquoi il a laissé Moshe aller jusqu'au bout de la route sans dire quoi que ce soit de l'héritage des femmes? Il lui a pas ordonné de dire la paracha en question. Parce qu'il voulait que ça vienne d'en bas, en quelque sorte. Ça vienne des hommes, en l'occurrence des femmes. Mais ça vienne des hommes. De la même manière que Hachem voulait bien que Moshe Rabbeinu déplace le jour de Matan Torah d'un jour. Il lui dit, Yasher Korhacha, ça veut dire, c'est bien que tu l'aies fait. Hachem voulait qu'il casse les louchot, il lui a dit, Yasher Korhacha, ah, tu as bien fait les choses. Mais s'il lui avait ordonné, alors c'est plus lui, c'est plus son initiative, c'est pas l'initiative des hommes. Alors Hachem veut que certaines choses soient à l'initiative des hommes. Ça veut dire, je vous donne des lois, et puis dans certaines lois, il y a certaines choses où il faut quelqu'un qui comprenne qu'il y a certaines choses qu'il faut aménager d'une certaine manière, mais ça doit venir de vous. Ça doit venir d'en bas, en quelque sorte. Alors, des fois, on ne sait pas. C'est bien, par exemple, la notion de royauté, par exemple. Or, les Bnei Israël demandent un roi. Et Shmuel leur dit, mais c'est un désastre. Ça va être une source de malheur, etc., d'avoir des rois. Ils disent non, quand même, quand même. Alors, on les laisse faire. Ils vont se casser la figure. Et Hachem a laissé faire. Donc, il y a une notion de roi dans la Torah. Ça existe, la royauté. Mais il faut pas la demander, quoi, quelque part. Faut pas la demander, sauf si On était certain que le roi en question soit à la hauteur. A priori, c'est pratiquement visiblement pas possible. Ça marche pas comme ça. Il y a des choses qui, il faudrait que ça vienne d'en bas, mais on trouve pas les gens pour pouvoir le faire. Chazal disent que, à peu près il y a beaucoup de générations dans lesquelles il y a des gens qui pourraient être le Mashiach. Mais il n'y a jamais les deux choses en même temps. La génération qui mérite le Mashiach et celui qui peut jouer ce rôle-là. Il y a des fois, on a des gens qui peuvent le jouer, la génération n'est pas à la hauteur. Des fois, la génération est à la hauteur, mais il n'y a personne qui peut le faire. C'est pour ça qu'on nous dit, puisqu'il y a Ahou Amener, qu'il était presque Mashiach. Et presque, c'est-à-dire la génération était tout à fait à la hauteur. Lui, il lui manquait un chouïa, quoi, comme on dit chez nous. Mais un petit truc. Il n'a pas. Le problème là-bas, c'est, pour être, enfin, si vous êtes concerné, pour être Mashiach, il faut être extrêmement humble. Donc, si jamais on vous propose, regardez, choisissez d'être aussi humble que possible, parce que c'est absolument nécessaire. Ça peut marcher et il faut être vraiment humble parce que c'est presque sûr qu'on attrape la grosse tête. Bon, c'est ce qui est arrivé à Bar Kokhba, etc. C'était les gens qui auraient pu jouer le rôle, mais et c'est sur le problème de un certain degré d'orgueil ou pas assez humble que Hizkiyahou s'est cassé la figure aussi. Il avait presque réussi. Mais pas jusqu'au bout. Et donc, c'est une situation particulière sur laquelle il faut réfléchir. C'est assez lié l'histoire des filles de Slofrod et aussi le problème de Moshe Rabbeinu parce que c'est des choses qui doivent venir d'en bas, elles viennent d'en bas. L'histoire de Moshe, ça devait venir aussi de lui. Mais il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Et là, le prix à payer, c'est que, quelque part, ça ne peut pas être Moshe qui fait entrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Mais par contre, grâce au fait que Moshe Rabbeinu a frappé le rocher, c'est pour ça qu'on a des Tanaïm, des Amoraïm, qu'on a eu des Rishonim, etc. Il y a des Tikkuné Hazohar qui disent que si Moshe n'avait pas frappé le rocher, on n'aurait rien eu. On aurait eu une Torah, mais qui aurait été pas très intéressante, si on peut parler comme ça, au sens, c'est une Torah un peu plate. On a déjà parlé des problèmes dans d'autres Shiurim, là. On a parlé de ce problème d'une Torah qui doit être dynamique, quoi, qui, sinon c'est complètement statique, etc. Ça aurait été statique si Moshe n'avait pas pris cette initiative. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer que Hachem veut, enfin, nous propose une Torah statique? Non, en fait, il propose une Torah qui est statique, mais en même temps, il inspire des gens pour lutter contre cette Torah statique pour qu'on voit bien la différence, quelque sorte. Mais, même quand on réussit, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est qu'on ne peut pas avoir, il va falloir travailler, creuser, 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 jusqu'à ce qu'on accède vraiment à cette eau qui est bien meilleure que l'eau qu'on aurait pu avoir sans effort. Et il va falloir le faire sans Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'est nous qui devons faire le travail, quoi. Si Moshe Rabbeinu était là, il aurait clarifié les choses. Et ça, il y a une valeur du travail parce que c'est comme ça que nous, hommes, nous sommes, quelque sorte, associés à la chaîne. Pour être associés à la chaîne, il faut qu'on fasse quelque chose de particulier. Eh bien, pour qu'on puisse le faire, il faut pas que Moshe nous mâche le travail, quelque part. Si Moshe vient, il éclaire tout parfaitement. Alors, on n'a plus aucun mérite, aucune difficulté. Et donc, on ne peut pas avancer. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné les moyens, en quelque sorte, d'accéder à l'eau la plus pure. C'est comme ça c'est ça le. donner le, la leçon. Maintenant, c'est, on a aussi le problème ici de, puisque c'est Pinchas, pourquoi, si Hachem voulait ultimement faire de Pinchas un Cohen, pourquoi est-ce que Pinchas n'est pas devenu Cohen dès le départ? Et comme vous savez, Aaron non plus, il n'est pas né Cohen. Aaron a été choisi, il est devenu Cohen, et Lazare et Itamar, les deux fils restants, les autres aussi d'ailleurs, ils ne sont pas nés Kohanim. Ils ont été moins comme Kohanim. Et Hachem a dit que ceux-là qui ont été moins deviennent Kohanim, et les enfants de ceux qu'ils auront, les enfants qu'ils auront après avoir été moins, eux seront Kohanim. Mais Pinchas, qui était déjà né à ce moment-là, qui est né d'Elazar, avant qu'Elazar devienne Cohen, lui, il n'est pas devenu Cohen. Mais finalement, Hachem lui donne la Kehuna comme récompense de son initiative là, dans l'affaire. Pourquoi Hachem lui a pas donné la... Puisqu'il voulait en faire un Cohen, pourquoi il l'a pas moins dès le départ? Alors, une des réponses est la suivante. Vous savez que un Cohen qui tue quelqu'un, même en légitime défense, même quand c'est une mitzvah, même quand il y est pour rien du tout, s'il a tué quelqu'un, il peut plus faire la avoda. Il reste Cohen, etc., mais il peut pas faire la avoda. Et donc, si Pinchas avait été Cohen, avec le fait qu'il tue Zimri et Cosby Batsu, etc., même si c'était une mitzvah de le faire, etc., il aurait été disqualifié, il n'aurait pas pu faire la avoda. Donc, il fallait qu'il agisse avant d'être Cohen, et qu'ensuite, seulement il devienne Cohen. Sinon, il n'aurait pas, ça n'aurait pas pu se faire. Et le problème, justement, c'était que Pinchas, il a agi selon un principe qui s'appelle Kanaim Pogimbo. C'est-à-dire, la halakha, elle est que si un juif a publiquement un rapport, publiquement, ça veut dire devant au moins un minyan de juifs, 10 hommes, il a un rapport avec une non-juive, les gens qui s'estiment zélés, ils peuvent intervenir et tuer le bonhomme en question. Mais il y a une condition, c'est qu'il ne peut le tuer que s'il l'attrape au moment du rapport. C'est-à-dire que si Zimri s'était retiré et que Pinchas l'ait tué à ce moment-là, Pinchas aurait été un assassin. Et donc il n'y avait quasiment pas de chance qu'il puisse les embrocher tous les deux, là, au moment de leur rapport, qui était le seul moment où il avait le droit d'être tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions, elles sont très, 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 très restrictives. Le problème des Canaïmes, le problème des gens zélés comme ça, c'est qu'il faut être sûr que ce ne sont pas des gens qui prennent un plaisir à critiquer, à rechercher la petite bête chez les autres. Donc, quasiment, il faut que celui qui agit de la sorte, il faut qu'il agisse de la sorte pratiquement contraint sur la compagnie. Je ne peux pas faire autrement. Mais il a pas du tout envie de se mêler de cette affaire. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que Pinchas, d'où est-ce qu'on, enfin plutôt, d'où est-ce qu'on voit justement que Pinchas n'était pas quelqu'un qui recherchait la critique des gens, etc., mais que effectivement, il n'en avait pas du tout envie d'intervenir, mais qu'il s'est senti obligé de le faire. Alors, c'est ça que je vous parlais de Octave Soffer. Octave Soffer, il dit, pourquoi est-ce qu'on, si vous reprenez le texte de Pinchas au tout début, on dit Pinchas, le premier verset, pardon, le deuxième. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Eshiv et Ramati, Me'al ben Israël, Bekano et Kinati betocham, Velo Chilite et ben Israël, et Kinati, Lachen est mort. Inini noten lo et Briti, Shalom. Alors, on dit, c'est écrit Pinchas ben Elazar, ben c'est normal, on dit Pinchas ben Elazar, mais pourquoi on dit ben Aaron? D'habitude, quand on mentionne quelqu'un, on dit c'est Toto, fils de machin, mais pas petit-fils de truc. Pourquoi est-ce qu'on dit ici Pinchas, fils d'Élazar, fils d'Élazar, c'est le fils d'Aaron? Alors on explique que les gens qui ont critiqué Pinchas ont dit, mais qui c'est ce type-là dont le grand-père était idolâtre? Son grand-père, c'était idole, c'était Yitro. Son grand-père maternel, c'est Yitro. Et c'était un idolâtre. Il a eu une recherche, il a fini par faire tshuva, mais à un moment donné, il était évidemment idolâtre. Alors ils ont dit, mais quand quelqu'un est descendant d'un idolâtre, comment est-ce qu'il peut se permettre de tuer un prince de la tribu de Shimon? Alors c'est pour ça que le texte dit, c'est vrai qu'un de ses grands-pères, c'est Yitro, mais l'autre grand-père, c'est Aaron. Mais ça répond pas à la question. C'est pas parce qu'un des grands-pères est Aaron qu'il n'a pas agi sous l'influence du grand-père Yitro. Alors le Octave Soffer, il dit justement qu'en réalité, le passage qui vient pas nous dire ici que Pinchas était le fils d'Élazar et Élazar le fils d'Aaron. Mais dire que Pinchas avait deux pères, en quelque sorte. Il avait Élazar et il avait Aaron. Ça veut dire que spirituellement, il était totalement le fils d'Aaron. Biologiquement, il était le fils d'Élazar et que Élazar était marié avec une fille de Yitro, etc., biologiquement. Spirituellement, il était entièrement le fils d'Aaron. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le fils d'Aaron? Qu'est-ce qu'on sait d'Aaron? Alors, c'est marqué qu'Aaron, c'était Rodev Shalom. Rodev Shalom et Rodev Shalom. Aaron, c'est quelqu'un qui recherchait sans arrêt le Shalom. Et donc, quand on dit qu'il est le fils d'Aaron, c'est que lui, il a aussi un penchant à rechercher le shalom et pas du tout à intervenir dans la vie des gens, si ce n'est pour chercher le shalom. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que effectivement, c'était vraiment par obligation qu'il est intervenu là contre Zimri. Et pas du tout parce que c'est quelqu'un qui aurait envie de, etc. Et là, c'est pour ça que le texte dit, Ineni noten lo et briti shalom. Je lui donne mon alliance shalom. C'est quoi une alliance de shalom? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'Hachem m'a donné dans cette alliance? C'est quoi une alliance shalom? Alors, en vérité, c'est-à-dire que comme lui, il recherchait le shalom, alors comme Pinchas, en vérité, était spirituellement vraiment le fils d'Aaron, qu'il avait une recherche de shalom, alors Hachem dit, je fais une alliance avec lui de shalom, lui il propose du shalom, et moi aussi je l'aiderai à ce qu'il puisse réaliser le shalom autour de lui, etc. Mais son shalom n'est pas parfait. C'est pour ça que le mot shalom dans la Torah, il est écrit, le vav, il est coupé. Le vav, il n'est pas entier. Le vav, il lui manque un petit morceau. Dans l'imprimé, on voit qu'ils ont laissé un point blanc dans le vav. C'est un shalom pas complet. Parce que ce shalom, il a néanmoins dû, il l'a obtenu par néanmoins quelque chose qui n'est pas le shalom. Il a obtenu le shalom, il recherchait le shalom, mais là, il a dû faire violence à à sa recherche de shalom, il a dû tuer quelqu'un. C'est pour ça que son shalom n'est pas parfait. Voilà, on s'arrête là. Merci.